Merci de choisir CILS FM 107,9 à Victoria. Il est 16h en ce jeudi 8 septembre. Bienvenue dans l'émission Le Débrief. On a une journée ensoleillée à Victoria. 21 degrés actuellement au Mercure. C'est parti donc pour cette nouvelle édition du Débrief. Beaucoup d'infos au menu aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous envoie les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Au retour, dans 4 minutes, on se penche sur les prévisions météo et on enchaîne juste après avec le bulletin des Nations Unies. En interview plus tard dans l'émission, je retrouve Aloïs Gallet de la PME vancouveroise Albor Pacifique. Nous allons parler avec Aloïs du jour du dépassement. Restez à l'écoute, ce sera vers 16h45. La production du Débrief est rendue possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Conjoncture de l'emploi au Canada, eh bien, selon le dernier sondage pour les professionnels au Canada de Robert Half, 84% des directeurs financiers canadiens s'attendent à faire du recrutement au cours des 6 prochains mois. Le document souligne que les employeurs veulent, par le fait même, agrandir leur équipe ou pourvoir des postes vacants. Il est à noter que le document ne fait pas état de stratégie de suppression de postes pour les prochains mois. Membre de la direction de la firme Robert Half, Greg Cipilli, a dit que la demande d'employés talentueux est élevée et les entreprises cherchent à repérer et combler rapidement les lacunes. Caroline Bennett a annoncé qu'un montant de 286 400 000 $ a commencé à être investi dans l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations pour l'année 2016-2017. La ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien a dit que ces investissements auront des répercussions immédiates sur le plan scolaire et profiteront aux élèves de façon tangible. Elle a mentionné aussi que le gouvernement Trudeau est déterminé à collaborer avec les chefs et les éducateurs des Premières Nations pour changer la vie de leurs élèves. C'est le 13 septembre prochain que se tiendra à Toronto la 17e conférence annuelle sur les médias et les télécommunications du groupe BMO Marché des Capitaux. La conférence réunit les principaux intervenants et investisseurs du secteur pour discuter de l'évolution des médias et des télécommunications dans le contexte actuel des marchés. Parmi les participants, notons Rogers, Québécois, Cineplex, Cogeco et Corus. Tim Casey, analyste financier chez BMO, a dit que BMO s'attend à des discussions animées entre les grands noms des médias. L'organisme La Collaboration canadienne sur les commotions cérébrales a dévoilé un outil dédié, entre autres, aux organisations sportives et aux écoles. L'outil vise à mettre en œuvre des stratégies de prévention des commotions cérébrales et aussi donne des indications sur la manière de gérer de tels événements. Notons, entre autres, qu'il est question de la réduction au minimum de l'incidence des commotions cérébrales et d'optimiser la prise en charge des athlètes atteints de commotions cérébrales dans les volets sportifs, scolaires, familiales, professionnels et personnels de leur vie. Des militaires canadiens ont commencé à participer à l'édition 2016 de l'opération australienne Render Safe. Le but est d'éliminer les débris explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Guadalcanal dans les îles Salomon, près du Japon. Les manœuvres visent aussi les îles Russell, toujours dans l'archipel des Salomon. Les Canadiens travaillent sous le commandement de la Force de défense australienne aux côtés d'environ 180 militaires de la Nouvelle-Zélande, des îles Salomon et du Royaume-Uni. L'opération se déroule jusqu'au 7 octobre. Statistique Canada vient de publier des données qui font état de la tangente vers le haut des frais de scolarité au pays. L'organisme fédéral nous apprend que les étudiants de premier cycle à temps plein paieront en moyenne cette année 6 373 $ en frais de scolarité. Et la situation des étudiants étrangers est encore pire avec une facture qui frôle les 24 000 $. La réduction des investissements publics continue de faire monter les frais de scolarité à des niveaux qualifiés d'alarmants par Statistique Canada. Pour Bilan Arte, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et des étudiants, la hausse des frais de scolarité est causée directement par les délais d'Ottawa à investir dans le futur. Un document récent démontre que la famille canadienne ne serait pas en mesure de prodiguer des premiers soins en cas d'urgence. Un sondage mené par Ipsos au nom de la Croix-Rouge canadienne nous apprend que 36% des Canadiens affirment que personne ne connaît les techniques de secourisme au sein de leur ménage. La Journée mondiale des premiers secours a lieu le 10 septembre. Au sport, eh bien, Bernie Ecclestone a confirmé aux médias qu'il supervise actuellement la vente de Formula One à la compagnie américaine Liberty Media. Au terme de la vente, qui devrait se faire quelque part dans les premiers mois de 2017, c'est plus de 8 milliards de dollars qui auront changé de main. Chase Carey, qui doit occuper le poste de président, a déclaré dans un communiqué que la F1 a des centaines de millions de supporters et qu'il voit une opportunité de développer davantage le marché. Baseball majeur maintenant, victoire des Yankees de New York 2-0 contre les Blue Jays. Les Jays sont inactifs aujourd'hui, ils recevront à compter de demain les Red Sox de Boston. Au hockey maintenant, Coupe du Monde, eh bien début des matchs hors concours aujourd'hui, République tchèque contre la Russie, la Suède va se mesurer à la Finlande et l'Europe va affronter l'Amérique du Nord. Rappelons que le Canada jouera son premier match préparatoire demain contre les États-Unis. Et au tennis au US Open à New York, chez les dames, Carolina Pliskova et Serena Williams seront des demi-finales, qui seront d'ailleurs disputées ce soir. Et du côté des hommes, le japonais Nishikori a surpris Andy Murray et Novak Djokovic sera lui aussi des demi-finales.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Il est 16h07. On va passer aux nouvelles provinciales. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 9 septembre, bienvenue dans l'émission. On parle pour commencer d'une petite ville qui s'appelle Kennel, qui est dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, un peu au nord, centre-nord. C'est une ville qui est située à 120 km au sud de Prince George. On a un article aujourd'hui sur le portail de Radio-Canada qui nous informe d'une décision du maire de cette ville d'instaurer un salaire de subsistance pour les employés et sous-traitants de la ville. Les travailleurs concernés verront leur salaire passer de 10,45 de l'heure, soit le minimum fixé par la province de Colombie-Britannique, à 16,52 de l'heure, a indiqué le maire, Bob Simpson. Les titulaires d'un contrat temporaire recevront l'augmentation en cas de renouvellement ou de prolongation. L'organisme The Living Wage for Families Campaign définit le salaire vital comme étant la rétribution minimale que devrait toucher une famille moyenne de 4 personnes, dont 2 adultes employés à temps plein pour couvrir les dépenses locales incluant le logement, la nourriture, le transport, de petites économies et des activités récréatives de base. Il y a d'autres villes en Colombie-Britannique qui ont ouvert la marche dans cette mesure de salaire vital ou salaire de subsistance, comme on veut. On a le port de Coquitlam ainsi que la Première Nation Ouayat, ici sur l'île de Vancouver, qui ont emboîté le pas à la première ville qui était New Westminster. En début d'année, New Westminster avait établi un salaire de subsistance donc pour les employés de la ville et les fournisseurs. Donc c'est très intéressant. Peut-être que c'est le début d'un mouvement à l'échelle de la Colombie-Britannique. On parle à présent de l'Office national de l'énergie qui est dans l'actualité tous les jours ou presque cet été. Trudeau doit suspendre le processus d'évaluation de l'Office national de l'énergie, indiquent des groupes écologistes. C'est sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. L'actuel processus d'évaluation fédérale des projets du secteur de l'énergie doit être suspendu et immédiatement révisé, affirment plus de 30 groupes environnementaux et militants dans une lettre qui a été acheminée au premier ministre Justin Trudeau. Aucun projet d'oléoduc ne devrait être lancé avant que Justin Trudeau n'ait procédé à la réforme de l'Office national de l'énergie, qu'on appelle dans son intitulé anglophone le National Energy Energy Board. Donc, c'est la position de ces groupes environnementaux qui ont écrit spécifiquement au premier ministre ainsi qu'au ministre des Ressources naturelles, Jim Carr. L'évaluation du projet Énergie Est de la compagnie TransCanada et la décision de l'Office national de l'énergie d'accepter le prolongement de l'oléoduc Trans Mountain, ici en Colombie-Britannique, devrait être annulée, soutiennent les groupes auteurs de cette missive adressée au gouvernement. Si le gouvernement veut que le public refasse confiance au processus d'évaluation ainsi qu'une analyse juste, objective et fondée sur des preuves, il doit complètement revoir tout cela, a déclaré en entrevue Patrick Derochy d'Environmental Defense, l'un des signataires de la lettre. Selon les militants, l'organisme de réglementation, donc l'Office, manque de légitimité en raison des allégations de conflit d'intérêts qui l'ont récemment ébranlé et parce qu'il ne consulte pas adéquatement les Premières Nations du pays. De plus, ces groupes environnementaux font valoir que le processus d'évaluation n'explique pas clairement aux citoyens comment le Canada peut construire des oléoducs et développer en même temps l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta, tout en respectant ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, question fort pertinente. On a pris des engagements l'année dernière lors de la conférence de Paris. Le développement des sables bitumineux va à l'encontre de ces engagements. Donc, le gouvernement est face à des contradictions. Il va devoir apporter des solutions, justement, à ces contradictions. Je vous recommande fortement cet article publié dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui. Trudeau doit suspendre le processus d'évaluation de l'Office national de l'énergie. Autrement, je vous parle d'un fait divers qui a attiré mon attention. La Colombie-Britannique a enregistré cet été son premier cas de choc anaphylactique causé par des piqûres de fourmis rouges, selon un entomologiste. Ralph Olson, une personne âgée de 67 ans, a été pris d'assaut par une colonie de fourmis rouges alors qu'il travaillait près d'un étang à New Westminster, dans le sud de la province, fin juillet. Sa réaction a été très grave. Il a notamment eu beaucoup de difficultés à respirer et a dû être hospitalisé la nuit suivant les piqûres. Le sexagénaire dit avoir eu besoin d'environ un mois pour se rétablir. Selon l'entomologiste et professeur à l'université Thompson Rivers, Robert Higgins, une réaction aussi intense aux piqûres de ces fourmis rouges originaires d'Asie et d'Europe reste rare. En général, un simple antihistaminique permet de traiter les symptômes. Donc voilà pour ce cas de réaction anaphylactique causée par l'espèce envahissante des fourmis rouges. Je vous parle encore dans cette portion provinciale du débrief d'un article paru dans le Times Colonist, qui est notre quotidien, notre journal ici sur Victoria. Un article sur de nouvelles consignes données par le gouvernement au réseau de l'éducation. Toutes les écoles de la province vont devoir mettre en place des protections spécifiques pour les étudiants gays, lesbiennes ou transgenres qui peuvent être victimes d'intimidation dans le cadre de leurs études. Donc, des mesures spécifiques doivent être mises en place. C'est le ministre de l'Éducation, Mike Bernier, qui en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Il y a aussi, le Times Colonist indique, oui, que des mesures avaient été prises dès 2012 concernant le phénomène de l'intimidation, mais les nouvelles mesures qui sont annoncées aujourd'hui sont plus spécifiques et ciblent tous les cas d'intimidation liés à l'orientation sexuelle. Autrement, dans le taillis, on a un papier sur le sénateur Mike Duffy. Rappelez-vous, Monsieur Duffy a été dans l'actualité ces dernières années. Un scandale de financement avait secoué le Parti conservateur. Il était au cœur de cette affaire. Au cours de l'enquête qui avait été fortement médiatisée, Mike Duffy qui était sénateur, avait indiqué certaines choses à propos de l'élection fédérale de 2008. Il avait allégué que dans la circonscription Saanich Gulf Islands, qui est la circonscription aujourd'hui d'Elizabeth May, vous le savez sans doute, il y avait eu des irrégularités très sévères. Et donc, lors de son témoignage, lors de ce scandale, Mike Duffy avait indiqué qu'un groupe d'employés du Parti conservateur fonctionnant de façon occulte avait mené des sondages illégaux, des sondages automatisés notamment. Et le Parti vert a tenté de faire en sorte qu'Élection Canada enquête dans cette affaire. Et on a connu aujourd'hui, cette semaine plutôt, la réaction de Élection Canada qui a décliné. Donc, il n'y aura pas d'enquête dans cette affaire de sondage robotisé, de sondage automatique qui avait été fait, selon Mike Duffy, dans la circonscription, pardon, Saanich Gulf Islands en 2008. Donc, c'était une procédure illégale. Il n'y aura pas d'enquête. Donc, le Parti vert doit être déçu de ça. Il y aura peut-être de nouveaux rebondissements dans ce dossier, c'est à suivre. On va faire une petite pause musicale. Je vous invite à entendre avec moi Étienne Dao et Charlotte Gainsbourg en duo qui nous chantent la pièce If. On se retrouve tout de suite après pour la nouvelle du jour. écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. J'ai oublié de vous passer le bulletin des Nations Unies. Alors on va tout de suite remédier à cette situation. Je vous envoie le bulletin du jour qui nous parvient du siège de l'ONU à New York. On se retrouve de l'autre côté avec la nouvelle du jour cette fois. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. À la une, la MONUSCO signale la présence de plus de 20 000 réfugiés sud-soudanais en RDC. Nous célébrons la 50e journée internationale de l'alphabétisation. Le club de foot du Barça et l'UNICEF marquent l'ouverture des Jeux paralympiques. Enfin en dossier, le sport au service du changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU poursuit son voyage marathon en Asie. Ban Ki-moon est intervenu ce jeudi à Vientiane, au Laos, lors du 11e sommet de l'Asie orientale, en observant l'influence croissante et le dynamisme du continent asiatique. Dans ce contexte, le patron de l'ONU a jugé essentiel de renforcer la coordination et la cohérence entre les États d'Asie orientale et au-delà, afin de relever les défis régionaux et mondiaux. Jérôme Languet.
D'emblée, le secrétaire général a rappelé l'engagement de l'ONU à travailler avec les États d'Asie orientale pour promouvoir la paix et la sécurité, le développement durable et les droits humains. Ban Ki-moon s'est toutefois inquiété de quatre types de menaces pour la paix et la sécurité dans la région. D'abord, les tensions accrues dans la péninsule coréenne. Ensuite, le terrorisme et l'extrémisme violent, notamment aux Philippines. Puis, les revendications territoriales en mer de Chine méridionale. Enfin, les graves défis posés par la production, le trafic et la consommation de drogues illicites. Le secrétaire général a salué l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, signé par tous les États de la région et qu'ont ratifié ces derniers jours les États-Unis, la Chine et le Laos. De plus, il a exhorté tous les États à participer le 19 septembre à New York au sommet de l'ONU sur les réfugiés et les migrants. Enfin, se félicitant des progrès accomplis ces 10 dernières années, le secrétaire général a appelé les États d'Asie orientale à renforcer l'architecture régionale pour résoudre pacifiquement les différends et contribuer à relever les défis mondiaux.
En RDC, la MONUSCO signale la présence d'environ 20 000 réfugiés sud-soudanais, notamment dans les provinces issues du démembrement de la province orientale. Ces personnes fuient les affrontements dans leur pays. Certaines arrivent en très mauvais état. Il y aurait même des éléments armés de la faction de Riek Machar. Une mission de l'ONU s'est rendue dans le secteur pour y faire une évaluation militaire et médicale. Félix Prosper, porte-parole de la MONUSCO.
Il y a eu une vague de population qui s'est déplacée justement du Sud-Soudan vers la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province orientale. Il y a eu cet état de fait qui fait que certains éléments armés de la faction de Riek Machar, avec ce mouvement de population, ont traversé au niveau de la République démocratique du Congo. Ceci, nous le confirmons. Nous avons eu à évacuer certains éléments qui étaient en très mauvais état de santé pour des raisons humanitaires, afin de les mettre dans des situations où une assistance médicale de manière très générale peut leur être apportée.
Ce jeudi 8 septembre marque le 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation. L'UNESCO célèbre cet événement sur le thème « Lire le passé, écrire le futur ». L'édition 2016 de la journée rend hommage à 50 années d'engagement, d'efforts et de progrès accomplis à l'échelle nationale et internationale pour améliorer les taux d'alphabétisation à travers le monde. Elle aborde également les défis actuels et recherche des solutions innovantes pour renforcer encore l'alphabétisation au cours des prochaines années. Boen Chakroun, chef de la section en charge de l'alphabétisation et de la formation professionnelle à l'UNESCO, explique les différents facteurs qui agissent sur l'alphabétisation.
Les analphabètes sont aussi les pauvres, sont aussi les marginalisés. Deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes. Donc c'est une conjugaison de facteurs. Et donc résoudre le problème d'alphabétisation, c'est aussi résoudre des problèmes socio-économiques, des problèmes de développement durable. Le deuxième élément, c'est rendre l'alphabétisation pertinente. C'est-à-dire que ça doit répondre aux besoins des individus. Ce n'est pas uniquement apprendre à lire et écrire. Il faut que ça s'inscrit par rapport à une demande, par exemple, de travail, par rapport à une question d'insertion, par rapport à une question de participation dans la communauté. Un dernier élément, c'est la mobilisation des acteurs. Le problème de l'alphabétisation n'est pas uniquement le problème du ministère de l'Éducation, c'est aussi la société civile, c'est aussi le secteur privé, c'est aussi les autres acteurs concernés.
L'ONU s'est félicité de l'ouverture de la 23e Paralympiade à Rio ce jeudi. Le secrétaire général Ban Ki-moon a affirmé que les athlètes paralympiques sont des artisans du changement et des modèles, des symboles de courage et d'aspiration pour nous tous. Pour lui, le sport est un merveilleux catalyseur de l'inclusion. Des propos largement repris par le directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake, qui a lancé une nouvelle vidéo avec l'équipe de foot du Barça où l'on voit 5 joueurs du club, dont Lionel Messi, les yeux bandés, jouer contre l'équipe espagnole de non-voyants. Le Barça et l'UNICEF qui ont renouvelé leur collaboration et ce en faveur des enfants avec des handicaps.
Un de nos objectifs désormais sera d'aider les enfants vivant avec un handicap à pratiquer aussi un sport. Notre partenariat avec le Barça aide des milliers d'enfants brésiliens handicapés à participer et pratiquer des sports et l'éducation physique dans leur communauté. Après tout, c'est la capacité et non le handicap qui définit ce qu'une personne peut accomplir. Ce que nous pouvons voir de nous-mêmes dans la vidéo, où les joueurs du FC Barcelone rencontrent ceux de l'équipe nationale espagnole de football des non-voyants. C'est une bonne façon de célébrer l'ouverture des Jeux paralympiques de Rio, alors que le monde se rassemble pour célébrer la capacité de chaque personne.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Quel rôle peuvent jouer les organisations sportives pour atténuer l'impact des changements climatiques? C'est le thème d'un événement spécial organisé ce jeudi au siège de l'ONU pour marquer notamment la signature par la FIFA de l'initiative climatiquement neutre dès maintenant. L'objectif est de mettre en avant les initiatives prises par des acteurs non étatiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour en savoir plus sur l'action climatique de la Fédération internationale de football, Isabelle Dupuis s'est entretenue avec le directeur du développement durable et de la diversité de la FIFA, Federico Adiaki.
Pour nous, à la FIFA, l'organisation sportive qui s'occupe du football, le sport plus populaire au monde, et avec une présence internationale en 211 pays, nous pensons que tout d'abord, il faut prendre la responsabilité de la gestion de nos propres activités, y compris l'organisation de la Coupe du Monde, un événement qui a certainement un impact très grand sur l'environnement. Et en plus, utiliser le pouvoir que le football a et la visibilité qu'une Coupe du Monde peut nous donner pour aussi parler à un public qui peut-être n'est pas trop au courant des difficultés que notre planète souffre à travers un langage simple pour faire ainsi qu'on passe un message éducatif sur cette problématique du changement climatique.
Quel est l'impact sur le climat que peut avoir un événement sportif comme la Coupe du Monde?
Comme toute activité humaine, un événement sportif a un impact certes négatif sur l'environnement. Nous avons mesuré ça, on continue à le faire depuis 2006, la Coupe du Monde en Allemagne. On a toujours mesuré l'impact de nos émissions de charbon avec la Coupe du Monde. Et on a essayé toujours d'avoir des mesures en place pour réduire cet impact au maximum, évidemment avec un reste très important d'émissions qui doivent être compensées, sur lesquelles on a pris une décision dès la Coupe du Monde du Brésil en 2014 de compenser la totalité des émissions qui sont sous notre responsabilité. Donc on a fait 100% de compensation des émissions de la Coupe du Monde 2014 et on a en plein maintenant pour la prochaine Coupe du Monde en Russie de faire la même chose.
Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines des initiatives ou des projets plus originaux qui sont mis en place lors de ces événements?
Disons que toute la partie protection environnementale liée à notre stratégie de développement durable pour les Coupes du Monde touche à plusieurs aspects. Donc il y a la partie évidemment des changements climatiques, la partie énergétique, transport, traitement des déchets, recyclage, etc. Et donc on utilise par rapport au pays où on est des projets spécifiques pour faire ainsi que l'impact soit réduit au minimum et puis après faire des projets de compensation qui soient avec des très hauts standards internationaux pour compenser les restes des émissions qui ne peuvent pas être réduites.
Les défis changent-ils d'un pays à un autre ?
Oui, ça change d'un pays à un autre. C'est les conditions d'organisation sont différentes d'un pays à l'autre. Les matrices énergétiques d'un pays à un autre changent. Les possibilités de transport qu'on a dans un pays, on les a pas dans un autre. Les distances même, il faut tenir présente que la plus grande partie des émissions d'un événement sportif, c'est le transport aérien. Et donc, les distances entre les villes hôtes des matchs d'une Coupe du Monde sont très différentes dans un pays comme l'Allemagne, vis-à-vis un pays comme le Brésil ou la Russie, ou en 2022, les distances très courtes commencera au Qatar. Donc toutes ces différences posent des questions et posent des difficultés qu'il faut traiter très spécifiquement quand on crée notre stratégie de développement durable pour la Coupe du Monde.
Outre les transports aériens, quels sont certains des autres grands problèmes ?
Après le transport aérien, c'est le logement qui génère des grandes émissions de charbon. Après, il y a la partie logistique, le transport local et la partie production, donc surtout de matériel temporaire qui est utilisé une fois pour la Coupe du Monde, qu'on essaye au maximum de recycler ou réutiliser après cet événement.
Et c'est avec Federico Adiaki que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous en info à l'antenne de CILS tous les jours du lundi au jeudi. Si vous êtes en rediffusion dans la journée du 9 septembre, merci d'être avec nous. On va passer à la nouvelle du jour. Le journal La Presse nous apprend aujourd'hui que 10% des espaces sauvages ont disparu sur la planète au cours des 20 dernières années. Un dixième de l'étendue des écosystèmes sauvages de notre planète ont disparu ces 20 dernières années. Se sont alarmés cette semaine des scientifiques. Ces derniers plaident avec force pour des politiques internationales de protection des espaces naturels jugés essentiels à la biodiversité et pour minimiser les effets néfastes du changement climatique. Ces superficies perdues, où la nature est terrestre, représentent ensemble deux fois la taille de l'Alaska et la moitié de l'Amazonie, ont-ils précisé dans un rapport publié au Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui se tenait cette semaine à Honolulu, Hawaï. Cette recherche est également publiée dans la revue scientifique Current Biology, nous apprend cet article dans La Presse. Les espaces sauvages qui sont importants pour la planète sont complètement ignorés dans les politiques environnementales, a déploré James Watson de l'Université du Queensland en Australie et membre de la Wildlife Conservation Society de New York. Pourtant, a-t-il fait valoir, ces espaces sont des sanctuaires de la biodiversité menacée et jouent un rôle essentiel pour réguler les climats régionaux et assurer l'existence de nombreuses communautés comptant parmi les plus marginalisées politiquement et économiquement dans le monde. Sans mesure de protection de ces étendues naturelles, elles seront dévastées par des développements immobiliers et industriels sauvages, a indiqué donc ce chercheur James Watson de l'Université de Queensland en Australie. Il a estimé que le monde dispose probablement d'une à deux décennies, pas plus, pour inverser le phénomène et préserver les espaces sauvages restants. Il a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d'agir en concertation. On se tourne maintenant vers le Courrier international, un média qui s'attache à effectuer une veille des journaux partout dans le monde. Signalé aujourd'hui l'ouverture et la tenue des Jeux paralympiques qui ont succédé aux Jeux olympiques de Rio. Donc les Jeux paralympiques sont déclarés ouverts. Ils se tiennent jusqu'au 18 septembre. Ils accueillent 4342 athlètes de 159 nations. Ceux-ci vont participer donc à la 15e édition des Jeux paralympiques d'été qui se sont ouverts avant-hier, donc à Rio, dans le célèbre stade Macarena. La snowboardeuse américaine Amy Purdy a fait sensation en se livrant à une chorégraphie avec un robot lors de la cérémonie d'ouverture. Amputée des deux jambes à l'âge de 19 ans, l'athlète médaillée de bronze à Sochi en 2014 évoquait ainsi l'alliance entre l'homme et la technologie. Un moment de grâce qui n'a pas dissipé, indique le Courrier international, les malaises entourant cet événement. Michel Temer, le nouveau président du Brésil, a été copieusement hué par la foule au cri de Fora Temer, qui signifie en portugais Temer dehors, et le président du Comité international olympique, quant à lui, Thomas Bach, a quant à lui brillé par son absence. Il n'est pas prévu qu'il se rende au Brésil, a fait savoir le Comité international olympique. Officiellement, Bach était retenu en Allemagne pour les obsèques de l'ancien président allemand Walter Schill, mais selon la presse brésilienne, la justice brésilienne voudrait entendre Bach, oui, dans le cadre de la procédure engagée contre l'Irlandais Patrick Hickey, arrêté le 17 août à Rio et accusé d'avoir participé à un réseau de revente illégale de billets pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc Patrick Hickey, qui était bien sûr un haut gradé de ce comité international olympique, la justice brésilienne veut en savoir davantage et donc Thomas Bach, s'il s'était décidé à se rendre aux Jeux paralympiques, il aurait vraisemblablement été interrogé par la police. Donc c'est sans doute pour cette raison qu'il ne s'est pas déplacé. Donc des jeux qui vont être très intéressants sur le plan sportif, c'est sans doute ce qu'il faut retenir. Il y a vraiment toutes sortes de sports vraiment très très intéressants, des athlètes très accomplis qui vont s'illustrer à l'occasion de ces jeux. D'ailleurs, je vous invite à écouter Sport et Santé Magazine, l'émission hebdomadaire Sport et Santé à l'antenne de CILS. On va parler dans la revue de presse demain entre 16 et 17 heures de ces jeux paralympiques. C'est garanti. On va retourner en musique brièvement. On va écouter Valérie Clio, une pièce qui s'intitule Monsieur le Vendeur. Et si le temps le permet, on fera une petite revue de presse au retour. À tout de suite.
Moi, on surnomme Mademoiselle. Je suis de Montréal et de long passage à Québec. Mes rêves sont des États-Unis, plus précisément de New York City. J'adore les perles noires de Tahiti et le champagne que j'ai déjà bu à Paris. Mais dites-moi, monsieur le vendeur, auriez-vous dans vos coffrets le vendeur? Je n'ai pas besoin d'un aspirateur. Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je cherche un vin pour moi, une vie meilleure. Ne partez pas, monsieur le vendeur, j'achèterai tout, je jure sur mon honneur. J'ai du thé, du café, assoyez-vous, monsieur le vendeur. Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur. Devrions-nous commencer? Je vois que vous en avez trois, un vert, un jaune, un orange. Et ma pulsation ne cesse d'augmenter. Juste à l'idée que je vais peut-être le trouver. Pardonnez-moi si j'ai l'air excité. Le bonheur, je l'ai cherché, je dois à tout prix le trouver. Réconfortez-moi, monsieur le vendeur. Auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur? Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je n'ai pas besoin d'un aspirateur. Écoutez-moi, monsieur le vendeur, je cherche un vin pour moi, une vie meilleure. Ne partez pas, monsieur le vendeur, j'achèterai tout, je jure sur mon honneur. J'ai du thé, du café, assoyez-vous, monsieur le vendeur. Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur.
Valérie Clio dans le débrief, 16h38. Merci d'être à l'écoute. Alexis Gagnon avec vous. L'info se poursuit dans le débrief. C'est le moment d'entamer une petite revue de presse des éditos. On a repéré ici au débrief quelques textes d'opinion qui valent la peine d'être mentionnés. Je commence avec une tribune signée par Noël Mamère. Noël Mamère, c'est un homme politique français de gauche. Il signe une tribune dans le média indépendant Reporter. Reporter qui s'écrit comme Planète Terre. Vous le trouverez facilement sur le web. Donc c'est une tribune, oui, signée Noël Mamère, qui s'intitule « On ne sauvera pas le climat si on ne change pas le système ». Je vous en lis quelques passages. La ratification de l'accord de Paris sur le climat par la Chine et les États-Unis est une avancée que personne ne peut contester. Une bonne nouvelle est toujours bonne à prendre. Mais même si cette ratification est entérinée avant la fin de l'année par 55 États, les interrogations sur la réalisation de l'accord subsisteront. Si la Chine a ratifié l'accord, c'est que cet accord ne l'engageait pas à grand-chose, sinon à éviter d'atteindre un pic de ses émissions de CO2 d'ici à 2030. Mais cette ratification revêt une importance politique majeure pour la Chine, puisqu'elle acte son rôle de leader mondial des énergies renouvelables, ainsi que la baisse significative de sa production et de sa consommation de charbon, due en grande partie au ralentissement de sa croissance économique des dernières années. Quant à la ratification pour les États-Unis, poursuit Noël Mamère, elle n'est malheureusement qu'une promesse et rien de plus tant que le Congrès des États-Unis n'aura pas donné son accord, et on en est encore très loin, écrit-il. Alors, première question à régler, dit Noël Mamère, c'est celle du financement. Souvenons-nous que le protocole de Kyoto adopté en 1997 n'a été mis en application que 8 ans plus tard et qu'il n'avait pas été ratifié alors par les États-Unis. Le volet financement était gravement défaillant. Autrement, deuxième sujet d'inquiétude, estime Noël Mamère, les énergies fossiles. Quel calendrier a-t-on prévu pour la réduction de la production et la réduction de la consommation de ces énergies fossiles, demande-t-il? Aucun. L'accord de Paris n'a pas réussi, dit-il, à imposer un moratoire international sur toute nouvelle exploration d'énergie fossile et a fait l'autruche sur l'exploitation existante. Or, c'est en mettant concrètement fin aux subventions publiques, on sait qu'au Canada, des milliards de dollars sont remis au secteur de l'énergie et en particulier au secteur du pétrole. Alors, je relis. Or, c'est en mettant concrètement fin aux subventions publiques, directes et indirectes et prêts bancaires également, aux acteurs du secteur des combustibles fossiles, que pourra s'engager une politique efficace de réduction des gaz à effet de serre. Donc, mettons fin aux subventions versées au secteur de l'énergie, des énergies fossiles spécifiquement, et on pourra commencer à progresser véritablement, indique Noël Mamère en substance. Troisième question, celle de la souveraineté alimentaire, estime-t-il, 70% des cultures pourraient être affectées par le changement climatique. Si rien n'est fait, ce sont 600 millions de personnes supplémentaires qui souffriront de la faim d'ici à 2040. Indique Noël Mamère. Ajoutons à cela l'accaparement des terres accéléré par la demande accrue en agrocarburants qui se substitue à la production de blé ou de maïs et qui participe ainsi à la crise alimentaire. Là encore, l'accord de Paris de 2015 est resté muet. Donc, ça commence sur une note positive, cet article, cette tribune de Noël Mamère, mais on voit à la lecture que cet homme politique français a beaucoup de questions et de craintes pour l'avenir. Donc je vous encourage à lire cette tribune sur internet à l'adresse reporter.net, avec Terre comme planète Terre, reporter.net. Est-ce qu'on a le temps de parler de la du papier de Pascal Breton sur le droit à mourir? Je crois que oui. C'est un texte donc de l'éditorialiste Pascal Breton dans le journal La Presse du côté de Montréal. Ça concerne la loi fédérale sur l'aide à mourir. Son texte vraiment souligne que beaucoup de malades souffrent inutilement et que la loi votée par le gouvernement Trudeau est insuffisante. Son application n'est pas assez, est insuffisante. Donc je vous lis quelques passages, quelques lignes de ce papier. papier signé par Pascal Breton dans la presse, tous les Canadiens devraient pouvoir mourir dans la dignité. Le sort d'Hélène L. montre plutôt la cruauté et l'indécence d'une loi qui fait en sorte que la mort survient dans la souffrance. C'est le témoignage bouleversant qu'a livré cette semaine dans nos pages le docteur Pierre Vien, qui a accompagné Hélène L. dans sa lente agonie, atteinte de sclérose en plaques depuis 20 ans. Il ne restait plus que sa main gauche à Hélène L. C'était sa seule mobilité. Et encore, elle était en train de l'abandonner, cette seule mobilité, lui donnant comme seul avenir, écrit Pascal Breton, d'être prisonnière de son corps et totalement dépendante d'autrui, avec toutes ses facultés intellectuelles pour en avoir douloureusement conscience. La seule issue a été de se laisser mourir de faim et de soif pendant 14 jours, en effet. Donc, voilà, la loi est fautive par là, puisqu'elle mesure de répondre aux besoins de plusieurs malades qui souffrent inutilement. C'est le message en substance de l'éditorialiste Pascal Breton dans la presse. Elle écrit encore « Du moment que le fédéral a ajouté le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible à la loi sur l'aide médicale à mourir, celle-ci a enlevé à de nombreux Canadiens malades le droit constitutionnel de mourir. » Voilà, je vous encourage à lire ce papier paru dans la presse cette semaine. On va se rendre à l'interview dans quelques instants. Je vous le disais en ouverture d'émission, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Aloïs Gallet, qui est le co-dirigeant de la PME vancouveroise Albor Pacific. C'est une petite entreprise qui se spécialise dans les services conseils en environnement. Il prodigue des solutions environnementales à différents organismes. Ils ont notamment travaillé avec l'école Victor Broder ici à Esquimalt récemment. Aloïs Gallet nous avait accordé une interview à ce sujet avec sa partenaire. Et donc cette interview aujourd'hui porte sur le jour du dépassement. C'est un concept en environnement qui permet de mesurer où on en est côté environnement, où en sont les humains, l'espèce humaine dans sa gestion des ressources sur la Terre. Donc restez à l'écoute, cette interview sera à l'antenne dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. Vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous de fin de journée en information à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute, où que vous soyez, au travail, à la maison ou en voiture. J'ai au bout du fil Aloïs Gallet, qui est co-dirigeant de la start-up vancouveroise Albor Pacific. C'est une petite firme qui se spécialise dans le conseil en environnement, les services de consultation en solutions environnementales. Bonjour Aloïs.
Bonjour Alexis.
Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité. L'environnement est toujours dans l'actualité, évidemment. On parle du jour du dépassement, que les auditeurs connaissent peut-être aussi sous son appellation anglophone « The Earth Overshoot Day ». Ça s'est produit récemment. Qu'est-ce que c'est?
C'est produit le 8 août pour l'année 2016. L'année précédente, c'était le 13 août. Et les années précédentes encore, c'était encore plus tôt. Ah. Et c'est un calcul en fait qui est réalisé et qui permet de définir avec une relative précision la date à partir de laquelle la consommation des ressources naturelles a dépassé la capacité de la Terre à s'auto-régénérer. Donc, c'est-à-dire ces moments où on consomme plus que la biocapacité de la planète. Et on voit bien en matière par exemple de pêche, il s'agit du moment en fait où on pêche plus que de nouveaux poissons se reproduisent, qu'on ait des nouveaux poissons. En matière de forêt, c'est la même chose. On coupe plus d'arbres qu'il y a de nouveaux arbres.
Donc cette journée n'a cessé de survenir plus tôt au fil des ans. Il n'y a pas eu d'exception. Hein. On a toujours remonté un petit peu le temps. Et finalement, on peut penser qu'un jour, ce sera le 2 janvier, j'imagine. Est-ce que ça va si vite que ça?
Ah, ça va assez vite. Hein. Les calculs ont commencé à partir des années 70, en fonction des méthodologies qui sont utilisées. La date de référence que j'aurais dû mentionner, c'est même plutôt celle de 1986. On considérait que le jour du dépassement était le 31 décembre, donc tout allait bien.
Ouais.
Et depuis, effectivement, ça ne cesse de remonter, à quelques exceptions près. Ça ne cesse de remonter. Et donc, ça, c'est corrélatif également avec l'augmentation des températures, du changement climatique. Ça fait partie des malheureux records que l'on bat au niveau planétaire, année après année.
D'accord. Et c'est un concept quand même qui est assez utile pour la sensibilisation au grand public, n'est-ce pas? Ça permet de visualiser quelque part.
Ça permet, oui, de donner des clés de lecture un petit peu à des notions qui sont absentes des réflexions économiques et des modèles de développement, comme notamment la notion de service écologique rendu, d'empreinte écologique, d'émission carbone. Et c'est toutes des notions qu'il va falloir, tôt ou tard, introduire dans nos calculs économiques pour pouvoir gérer, et je vais même utiliser le mot « rationaliser », l'utilisation des ressources au niveau mondial.
D'accord. Est-ce que vous parlez du jour du dépassement avec vos clients? Est-ce que c'est quelque chose qui survient dans les discussions, dans la préparation des projets, ou est-ce que c'est trop large, c'est trop global?
C'est encore large. Alors, pas auprès des clients, mais auprès des personnes que l'on peut rencontrer dans les opérations de, qu'on va appeler de business development ou de publicité, pro bono. Je pense notamment au Bastille Festival auquel on a participé le 14 juillet dernier ici à Vancouver, donc célébration de la fête nationale française. On a pu avoir des échanges, des discussions comme ça avec des personnes qui venaient nous voir sur notre stand pour discuter d'environnement, de bilan carbone. On a proposé un bilan carbone individuel avec un focus uniquement sur l'alimentation pour montrer un petit peu aux gens quelle est la part de l'empreinte carbone de leur alimentation uniquement au niveau à leur niveau personnel, et puis rapporter ça par rapport à une moyenne canadienne, une moyenne mondiale, voir un peu que justement l'alimentation carnée notamment faisait presque autant de mal que la possession et l'utilisation quotidienne d'une voiture. Donc ce sont des concepts qu'on discute avec les personnes lorsqu'on a le temps. Avec les clients, ce sera le cas notamment avec les écoles du CSF, puisque ça fait partie des notions qu'on essaye de suggérer aux professeurs pour qu'ils les enseignent dans le cadre de leurs cours. Mais c'est assez abstrait. Moi, je trouve encore ça assez abstrait pour être communiqué facilement auprès de tout le monde.
Oui.
Il y a du travail à faire, oui.
Et bon, dans l'actualité, il y a toujours des actus qui concernent l'environnement. Elles sont souvent déprimantes. Elles peuvent susciter un sentiment d'impuissance, de détresse. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous avez des solutions à proposer aux gens, des solutions qui peuvent être appliquées à leur échelle et qui peuvent contribuer justement à faire en sorte un jour que ce fameux jour du dépassement soit repoussé et qu'ils surviennent plus tôt, finalement.
Bien sûr. À titre personnel, moi, il y a une réflexion très simple d'un Canadien célèbre, Hubert Reeves, qui m'a marqué lorsqu'on lui a posé un peu la même question que tu viens de me poser, Alexis, c'est de savoir, lorsque tout va mal en matière d'environnement, on se sent impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui.
Et lui, il disait, mais très simplement, chacun peut faire quelque chose. S'il a la chance d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit où vivre, c'est planter des fleurs, planter des arbres sur sa fenêtre, sur son balcon, dans son jardin, si on a cette chance-là, pour faire revenir la biodiversité. Et avec Albor Pacific, c'est exactement ce qu'on fait en matière de solutions environnementales et solutions environnementales et alimentaires, c'est essayer d'apporter la biodiversité productive qui permet de produire de la nourriture auprès de tout le monde.
D'accord.
Voilà à quoi ça me fait penser. Autre solution que je discute parfois avec des experts en matière de carbone, de prix du carbone, marché du carbone, qui sont en fait eux sur le segment production industrielle, production de carbone, et qui permettent. On est capable aujourd'hui de permettre à des industries qui produisent du carbone dans le cadre de leur process industriel de compenser en finançant par exemple la plantation de forêts. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui va dans le bon sens au niveau production, mais je crois toujours, et j'essaie d'avoir ces discussions le plus souvent possible, qu'au niveau de la consommation, il faut aussi être capable de donner la possibilité aux individus de suivre leur consommation carbone, de suivre leur consommation, leur empreinte écologique, pardon. Et l'idée que j'ai derrière la tête, c'est celle de la création d'un passeport carbone, peut-être, qui peut faire très peur comme ça, mais qui, si ça prenait la forme d'une application toute simple qu'on a sur son téléphone, pourrait être très utile et qui permettrait, en fonction des achats de nourriture, des achats vestimentaires, des achats de moyens de transport que l'on fait au quotidien, d'avoir en face des unités de carbone, par exemple, qui nous permettent de voir à partir de quel moment on a atteint notre propre overshoot day, à partir de quel moment on a dépassé la moyenne mondiale acceptable pour être soutenable. Je pense que ça, c'est une idée qui pourrait être intéressante parce que je vois qu'on fonctionne tous de la même manière avec une voiture lorsqu'on remplit son réservoir d'essence. Le but du jeu, c'est jamais de le faire disparaître le plus vite possible. Le but du jeu, c'est de rouler le plus longtemps possible avec un plein. Et je vois pas pourquoi ce serait différent en matière de consommation de carbone au niveau individuel. Donc je crois qu'on n'est pas tous prêts encore avec cette idée parce que ça reste abstrait, mais que c'est quelque chose vers lequel on peut se diriger. Je pense qu'il pourrait être puissant en termes d'impact sur les consciences.
Oui, c'est une idée très porteuse. Il y a beaucoup de compagnies très actives dans le créneau web à Victoria. Qui sait, peut-être qu'une d'elles voudra s'associer avec Albor Pacific pour créer une belle application qui sera adoptée par le grand public. Ce serait un développement super intéressant. Vous parliez un petit peu plus tôt, Aloïs, de l'alimentation carnée. Est-ce que vous allez parfois jusqu'à suggérer à vos élèves et aux parents d'élèves d'adopter une alimentation végétarienne?
On aimerait qu'en fait la réflexion vienne de même. Nous, on se contente de donner des outils, notamment aux professeurs, parce qu'en fait, on n'intervient pas directement auprès des élèves, on laisse les professeurs faire leur travail, on donne ces outils aux professeurs, et on croit beaucoup qu'en fait, les conclusions qui marquent sont celles que l'on tire soi-même, pas celles qui ont été élaborées par une personne extérieure et qui font l'objet d'un article sur lequel on va trouver du bon, on va trouver des points à critiquer et on sera plus ou moins d'accord, on se souviendra peut-être ou on oubliera. Donc en fait, on leur donne les outils justement pour arriver à mettre en évidence que le régime carné est très dommageable en termes de bilan carbone, en termes d'impact écologique. On les laisse eux tirer leurs propres conclusions. Mais bon, une fois que l'outil a été mis à disposition, je veux dire, il est impossible de dire « Oh ben non, je mange du bœuf tous les jours, mais c'est pas grave ». Non, on voit, chiffre à l'appui, que ça coûte beaucoup en termes d'émissions de carbone. Et lorsqu'on connaît la moyenne canadienne, lorsqu'on connaît mieux la moyenne mondiale acceptable, l'idée, c'est pas que les gens se sentent coupables, c'est pas de faire culpabiliser les individus, mais c'est de leur donner des clés de lecture et qu'ils puissent en tirer leurs propres conclusions. Je pense qu'une fois qu'on a donné ces clés de lecture, chacun est raisonnable et capable de dire « bon, j'aime le bœuf, mais je suis capable de peut-être restreindre ma consommation à une fois par semaine, puisque mes connaissances me commandent de changer mon régime alimentaire. »
J'ai très hâte de voir cette application. Elle rendra d'importants services aux gens qui veulent se situer un petit peu dans leur consommation en rapport avec leurs soucis de l'environnement. Ça promet d'être très utile. Aloïs Gallet, co-dirigeant de la start-up vancouveroise Albor Pacific, grand merci pour cet éclairage sur le jour du dépassement, le Earth Overshoot Day, qui s'est produit le 8 août. Et on espère que cette date bougera dans l'avenir, qu'elle arrivera plus tard, évidemment. Un grand merci, Aloïs.
Merci, Alexis. À bientôt.
À bientôt. C'était Aloïs Gallet de la start-up vancouveroise Albor Pacific. C'est déjà tout pour le débrief. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure d'info quotidienne. On va se retrouver lundi. Demain, vendredi, c'est Sport et Santé Magazine entre 16 et 17 heures. Soyez avec nous. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Au nom de toute l'équipe, à très bientôt.